Bienvenue dans ce troisième volet consacré au développement parallèle avec le framework .NET. Aujourd'hui, nous allons aborder la notion de tâche, tâche qui se trouve dans une bibliothèque, la Task Parallel Library, qui est apparue avec le framework .NET 4.0. Alors, rappelez-vous, pour pouvoir paralléliser ce type de boucle, boucle qui affiche une fractale de Mandelbrot à l'écran, il faut venir engluer notre fonctionnel dans de la plomberie propre au parallélisme. Ça, c'est quelque chose aujourd'hui qu'on ne préconise plus parce qu'on ne peut pas faire confiance à ce type de code, parce qu'on ne sait pas s'il va pouvoir monter à l'échelle lorsque je vais avoir 2, 4, 6, 8, 10, 12 cœurs. À la place, il va falloir utiliser des librairies de plus haut niveau qui vont permettre de simplifier le développement parallèle. Et c'est tout le rôle de la Task Parallel Library de simplifier justement ce développement parallèle en apportant en fait une notion de hiérarchie d'API riche, en apportant une simplification de l'arrêt des tâches, en apportant une simplification de la coordination de ces tâches entre elles, une simplification de la gestion des exceptions. Mais elle apporte aussi une façon efficace de gérer le nombre de tâches dans le système en utilisant un planificateur de tâches, un scheduler dit voleur de tâches. Alors comment ce planificateur de tâches fonctionne? Déjà, première chose qu'on peut constater par rapport à la version 3.5 du pool de thread, le pool de thread en .NET 4.0 et 4.5 possède plusieurs files d'attente. Une file d'attente global, où le thread initial va venir planifier en fait ses tâches, et des files d'attente locales à chaque processeur disponible dans le système. Alors, le thread initial va créer des tâches. Ces tâches vont elles-mêmes créer des tâches enfants qui seront planifiées non pas dans la file d'attente globale, mais dans la file d'attente locale à chaque processeur. Ici, tâche 2 va créer trois tâches, il va venir les empiler de haut en bas. En effet, lorsque tâche 2 aura fini, c'est tâche 5 qui sera exécutée en premier. Et pourquoi? Parce qu'il est clair que dans le cache processeur, il peut y avoir des données utiles pour tâche 5. Ensuite, tâche 3 et tâche 4 sont descendues d'un cran. Et une fois que tâche 1 sur un autre processeur a fini, le planificateur de tâches va venir voler en haut de la pile de la file d'attente locale de son petit copain, la tâche numéro 3. Il vient la chercher en haut parce que tâche numéro 4 aura sans doute besoin des données qui sont dans le cache processeur disponibles après que tâche 5 est finie. Si tel n'était pas le cas, il aurait fallu qu'il y ait cet effet ping-pong, de dire que si task numéro 4 avait besoin des données qui se trouvaient dans le processeur numéro 0, ici par exemple, le système aurait été obligé d'aller les chercher dans le processeur 0 pour pouvoir les mettre dans le processeur numéro 1. Donc on voit là un planificateur de tâches beaucoup plus efficace que celui qu'on avait dans la version 3.5 du .NET Framework. Alors, de la théorie à la pratique, voyons maintenant comment, par code, avec Visual Studio 2013, on va manipuler cette notion de tâche. Alors, pour créer une tâche, vous avez à votre disposition trois méthodes. La première, c'est d'utiliser directement la classe Task, comme on va le faire ici. J'ai ma classe Task qui vient donc de l'espace de nom system.threading.task. Je vais créer une task en lui passant en paramètre dans son constructeur une lambda expression qui va déplacer mon alien. Et ne pas oublier de démarrer la tâche, bien évidemment. Une seconde méthode qui est plus complète en termes de paramètres à passer au scheduler, en fait au planificateur, qui est d'utiliser une fabrique de tasks. Donc de la même manière, je vais créer ma task en utilisant cette fabrique. Cette fabrique, je vais démarrer cette fois-ci directement la tâche. Voilà qui est fait. Et puis une troisième méthode qui est arrivée avec le framework 4.5, et qui justement permet de simplifier l'utilisation et la création de tâches. Donc je vais créer ma tâche. Cette méthode, c'est la méthode de run. Et cette méthode run, pareil, je vais démarrer. J'exécute maintenant mon programme. Je vais faire go. Et là, je vois que mes trois tâches créées de façon complètement différente démarrent. Encore une fois, je peux suspendre ces tâches-là. Et comme la tâche utilise en arrière-plan un thread, bien évidemment, qui est, je vous le rappelle, l'élément, le plus petit élément exécutable de Windows, eh ben, il est assujetti aussi à l'ordonnanceur de thread qui va donner un quantum de temps et donc basculer de contexte à chaque fois que ce quantum de temps est expiré. Et ici, on le voit bien lorsque l'alien passe en rouge et il passe d'un processeur à un autre, comme on peut le constater ici avec les numéros qui changent. Alors, il est également possible de faire de la coordination de threads entre elles. Pour ce faire, on va utiliser la méthode wait sur chaque thread. Alors, on va déjà créer trois aliens. Un qui sera positionné à droite de l'écran, un deuxième qui sera positionné à gauche de l'écran, et un dernier qui sera positionné au centre de l'écran. Ensuite, on va créer nos trois tâches. Donc la première tâche, on va déplacer l'alien. La deuxième tâche. Et la troisième tâche. Voilà qui est fait. On va démarrer la première tâche et puis on va dire au scheduler, tu vas attendre environ 2 secondes et puis continuer et démarrer la seconde tâche. Et de la même manière, on va attendre 2 secondes sur cette tâche et démarrer la troisième tâche. Je vais exécuter mon programme. On va attendre 2 secondes, la deuxième tâche démarre. 2 secondes, la troisième tâche démarre aussi. Il est possible également d'attendre que toutes les tâches soient finies en une seule opération en utilisant soit la méthode WetAll de la classe Task et en lui passant en paramètre un tableau de Task, ou alors d'utiliser une méthode qui s'appelle WhenAll, qui arrive avec le framework .NET 4.5 et qui, elle, de la même manière, prend un tableau de tâches, mais qui, à la différence de WhetAll, n'est pas bloquante. Alors, on peut aller même un petit peu plus loin et d'attendre qu'au moins une tâche est finie en utilisant soit la méthode WaitAny, soit la méthode WhenAny. De la même manière, le WhenAny disponible à partir du framework 4.5 ne bloque pas l'interface. Avec les tâches, j'ai également une notion de continuation, c'est-à-dire que lorsqu'une tâche sera finie, je vais pouvoir démarrer automatiquement une seconde tâche. Donc, on va recréer deux petits aliens hein, pour expliquer ce phénomène, cette notion de continuation. On va créer une première tâche. Cette fois-ci, dans cette tâche, on va lui mettre un compteur qui, arrivé à 40, par exemple, va arrêter la tâche. Je vais créer une deuxième tâche. Voilà qui est fait. Je vais démarrer ma première tâche. Et puis sur cette tâche 1, je veux continuer mon algorithme, par exemple, lorsqu'elle est finie. Et donc je vais utiliser la méthode continuewith en lui passant en paramètre une tâche, donc qui est elle-même, et je démarre mon alien. Exécutons notre programme. Je démarre, le premier alien démarre et au bout de 40 itérations, le second alien démarre. Maintenant, on imagine vouloir savoir exactement ce qui s'est passé dans la première tâche. Continuous prend en paramètre donc une tâche qui est en fait la task 1. Ben, je vais pouvoir tester si il est arrivé quelque chose à la tâche numéro 1, par exemple, si elle a eu une gestion, une exception qui a été levée. Je peux la tester avec la propriété isFaulted, mais je pourrais très bien tester également si elle est bien terminée ou si elle a été arrêtée volontairement. Nous, on va dire isFaulted égal égal false. Donc, si je n'ai pas eu d'erreur, je démarre mon second thread. On va simuler une erreur en levant une exception, donc de type application exception par exemple. On va mettre erreur dans l'alien 1. Voilà qui est fait. On exécute notre programme. Au bout de 40 itérations, je vais lever une exception. Et est-ce que mon deuxième alien va partir? Ben non, il n'est pas parti parce que j'ai bien testé. Oui, j'ai eu une exception, donc je ne continue pas l'exécution de mon algorithme. Alors une tâche peut également retourner des valeurs. Hein. On imagine par exemple que j'ai deux tâches qui font des calculs dans leur coin et j'aimerais pouvoir agréger le résultat de ces deux calculs. Si je devais le faire avec le modèle de thread, ça serait assez complexe et j'aurais pas mal de code propre à du multithreading et à de la coordination de thread, alors qu'avec les tâches, ben je vais pouvoir très simplement retourner une valeur. Alors on y va. On va créer un premier alien, d'accord. Ce premier alien, il va être embarqué dans une tâche, mais regardez la tâche là, je vais lui dire tu vas me retourner en fait un int. Je crée ma tâche. De la même manière, dans son constructeur, je dis attention, tu vas créer un int, et je vais lui passer comme action, bah. Voilà, par exemple, au bout du compteur qui sera égal à 40, tu vas retourner la valeur 21. Donc on imagine que je simule ici une charge de travail. Je vais créer un second alien. De la même manière, ce second alien va me retourner une valeur. Par contre, le délai d'attente sera un tout petit peu plus long. On va lui dire quand le compteur sera à 60. Et tu me retournes également 21. Ensuite, je vais démarrer mes tâches. Je démarre mes tâches. Et puis, pour pouvoir agréger le résultat, chaque tâche a une méthode qui est result. Plutôt cette propriété result va attendre que chaque tâche est finie. Donc, je n'ai même pas besoin de gérer le wait, puisqu'il est fait pour moi automatiquement dans la méthode, dans la propriété result. Et je vais afficher le résultat. J'exécute mon bout de code, go, mes deux threads démarrent, il y en a une qui a fini son travail, la deuxième n'a pas encore fini, une fois qu'elle a fini, poum, le résultat est à l'écran, est affiché à l'écran. Maintenant, j'aimerais pouvoir arrêter une tâche. Vous avez vu, mon alien ici tourne dans une boucle infinie. Et si je devais gérer manuellement l'arrêt, il faudrait que je mette en place plein de plomberies propres au multithread pour coordonner correctement l'arrêt d'une tâche. Avec la TPL, je vais utiliser un mécanisme beaucoup plus simple qui va me permettre justement d'arrêter correctement ma tâche. Ce mécanisme, c'est tout simplement une classe qui s'appelle Constellation Token Source, qui, lorsque je vais la créer, va intrinsèquement construire un jeton d'arrêt que je vais réutiliser. Donc on va créer un alien qu'on va mettre à droite de l'écran, on va créer une tâche, et puis on va lui passer en paramètre un jeton courant. Ensuite, ce que je vais faire, c'est tout simplement caster mon jeton courant dans le type Cancellation Token, parce que ce qui est passé ici à la task, c'est un Current Token, mais de type objet, donc il faut le caster. Et ensuite, je vais aller pouler une méthode. Est-ce que la demande d'arrêt est en cours? Tant que j'ai pas de demande d'arrêt en cours, ce que tu fais, c'est que tu continues à te déplacer. Si jamais j'ai une demande d'arrêt, je sors donc de la boucle et il faut impérativement prévenir le système que j'ai une opération en cours qui a été annulée. Ceci, ça permet de mettre le bon état annulé à la tâche si jamais je voulais continuer ou tester, savoir ce qui s'est passé au niveau de ma tâche. Derrière, je vais passer mon jeton et je vais démarrer ma tâche. Ensuite, sur le bouton stop, ce que je vais faire, c'est que je vais tester si j'ai un jeton source qui a été créé, et sinon, j'arrête ma tâche. Et au cas où, je recrée un nouveau jeton d'arrêt. On va exécuter maintenant l'application. Je vais démarrer mes aliens, je peux en démarrer plusieurs les uns à la suite des autres. Ok. Lorsque je vais appuyer sur le bouton stop, ça m'arrête bien tous mes aliens. Alors rappelez-vous, la tâche a une notion de hiérarchie. Je peux aussi définir l'arrêt d'une tâche par an, ce qui va automatiquement arrêter également toutes les tâches enfants. Enfin, si je souhaite être prévenu lorsque une tâche a été arrêtée, j'ai une notion d'enregistrement d'une méthode de rappel qui sera, comme son nom l'indique, rappelée au moment où j'arrête ma tâche. Donc, je vais utiliser sur le jeton la méthode register et ce que je veux, c'est que ça m'affiche un message particulier qui est celui-là. Réexécute l'application. On démarre un alien et si j'arrête mon alien, je vais être automatiquement prévenu. Voilà qui est fait. Alors, une autre manière de savoir si la tâche a été arrêtée, c'est de capturer l'exception. Operation Canceled Exceptions. Pour ce faire, on va tout simplement gérer les exceptions de cette manière-là. Vous allez voir, c'est très très simple. Je vais déjà démarrer une nouvelle tâche et je vais attendre sur ma tâche numéro 1 et je vais capturer pas n'importe quelle exception, mais Aggregate Exceptions qui, comme son nom l'indique, agrège toutes les exceptions qu'il pourrait y avoir dans une tâche. Donc ensuite, je vais parcourir une liste des exceptions qui se trouve dans Inner Exceptions avec un S. Je vais tester si c'est bien une opération de type Canceled Exceptions. Si oui, je vais afficher un message d'erreur. Sinon, je vais relever l'exception. OK? Donc une fois que tout ça est créé, maintenant si je réexécute mon bout de code, mon alien démarre. Si je stoppe, je vais recevoir un premier message qui est la redemandée. On l'avait vu, hein, j'ai enregistré. Et vous avez vu aussi, l'opération a été annulée. Ça, c'est issu de la capture de mon exception Operation Canceled Exceptions. Mais ça veut dire que On peut très bien lever n'importe quel type d'exception. Donc, du coup, imaginons que je vais lever une exception application exceptions. Je mets erreur dans l'alien numéro 1. Donc, cette erreur va arriver pratiquement immédiatement. Ici, je vais tout simplement dire affiche-moi le message j'exécute mon code et tout de suite là j'ai même pas eu le temps d'arrêter l'alien que j'ai déjà en fait une erreur que j'ai réussi à catcher de cette manière là. Donc, vous voyez, méthode très très simple avec la TaskPile Library pour capturer les exceptions. Bien évidemment, ce qu'on vous recommande, c'est que vous gériez vous-même les exceptions dans votre code. C'est une bonne pratique de le faire soi-même et de dire là, je vais gérer l'exception, application exception. Donc pour résumer ce qu'on vient de voir, les tâches utilisent en arrière-plan la plus petite unité d'exécution de Windows qui est le thread, bien évidemment. Se trouve dans un espace de nom system.threading. Pour créer une tâche, on a trois possibilités. Soit la méthode classique qui est de construire la classe task et de démarrer avec sa méthode de start la tâche, soit d'utiliser une fabrique de classe, soit d'utiliser une nouvelle méthode qui est disponible avec le framework 4.5, qui est la méthode run et qui simplifie l'utilisation et le démarrage des tasks. Ensuite, une tâche peut retourner des valeurs. Donc ça, c'est très intéressant lorsqu'on va vouloir capturer le calcul dans chaque tâche et éventuellement en faire une agrégation après. Donc ça, c'est intéressant. On a vu qu'on peut avoir aussi une coordination de tâches à l'aide de plusieurs types de méthodes, soit la méthode wait sur la tâche, soit directement avec des méthodes statiques qui permettent d'attendre lorsqu'une des tâches est finie ou lorsque toutes les tâches sont finies. Ensuite, on a une notion de continuation. Une fois qu'une tâche a fini son travail, on peut continuer une nouvelle tâche. On peut même tester l'état de la tâche, savoir si elle a été arrêtée, si elle est véritablement finie, ou même si une exception a été levée dans cette tâche. Ensuite, on a la notion d'arrêt élégante de tâche grâce à deux objets qui sont le cancellation token source et le cancellation token. Enfin, on va pouvoir gérer facilement la notion d'exception grâce à une exception qui agrège l'intégralité des exceptions qui pourraient se passer dans une tâche. Dans un prochain volet consacré au développement parallèle, on va essayer de connaître un petit peu ses ennemis, c'est-à-dire les erreurs qui arrivent le plus couramment dans la programmation parallèle. Erreurs qui sont dites non déterministes et qui arrivent quand justement on ne les attend pas et qui sont liées essentiellement au partage d'un état ou un partage de données en mémoire.